R22 tout le monde, antenne, radio appartement 22.
راديو شقة 20 أول راديو ثقافي في المغرب.
Bonjour. L'appartement 22, c'est un lieu pour l'art qui a été créé à Rabat en 2002. Au départ, c'était un lieu privé, en fait, c'était mon appartement et j'y habitais pendant un certain nombre de mois comme habitataire entre. À Rabat, en fait, entre les voyages que je faisais depuis le Rif, ma région natale, disons, dans le nord du Maroc, et la France. Et donc, Rabat, c'était le lieu de transit un peu, où j'allais entre Paris et le Rif, parce qu'il y a un aéroport. Et aussi, Rabat, il y a une très grande université, c'est la plus importante université au Maroc. Et j'avais très envie de travailler avec une génération d'artistes qui était ma génération et la génération un peu plus jeune. C'est qu'à l'époque, en fait, en 2002, c'est un moment, c'est 2 ans après les expéditions Le Bout du Monde que je faisais spécialement dans le Rif. Mais beaucoup d'artistes étaient basés dans d'autres villes et on se donnait rendez-vous à Rabat, qui est la capitale en fait, qui est le centre, disons, intellectuel un peu, et l'endroit où tous les jeunes allaient revendiquer leurs droits. C'est un lieu, il y a eu un développement dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la littérature, du cinéma, et des endroits un peu emblématiques de rencontres. Notamment, il y a un café qui s'appelait le Balema, qui était ouvert encore à l'époque, c'est toujours ouvert, mais ça a beaucoup changé. Et moi, je rencontrais beaucoup d'artistes là-bas. Et j'avais envie d'enseigner à l'université de Rabat, de créer un département pour l'art. J'avais rencontré pas mal de professeurs, de responsables d'université. Et ce projet d'enseignement est devenu un peu complexe, un peu, disons, une mission impossible avec le système universitaire, avec le... les directions politiques au Maroc et la volonté de créer vraiment des vrais systèmes éducatifs importants, notamment dans le domaine de l'art. Et comme j'avais cet appartement, je voulais quand même continuer ce projet d'apprentissage, de transmission et de création d'espaces d'expression. Donc j'ai décidé de créer des moments de rencontre à l'appartement chez moi. Ça ne s'appelait pas l'appartement 2, c'était mon appartement. Donc j'ai invité des artistes à se rencontrer, à discuter, à travailler des publications. Et très vite, on a commencé à parler des expéditions Le Bout du Monde qui étaient dans le Rif, donc tout ce qui se passait dans la rue en fait. Parce que l'expression dans une société se passe dans l'espace de vie. Et il y a eu un manque d'espace public ou d'espace partagé institutionnel ou structuré. Donc c'est un peu né comme ça, petit à petit. Ça s'appelait pas du tout l'appartement 22 au départ. Et j'ai invité, comme un tout premier projet en fait, j'avais invité des artistes en résidence à venir chez moi, travailler, réfléchir, discuter avec eux. C'était des jeunes artistes à ce moment-là, Younes Rahmoun, Safa Arouaz, mais il y en avait d'autres, mais on avait décidé de travailler avec deux. Et qui travaille sur cette notion, en fait, dès le départ, de relation homme-femme, d'égalité, de l'artiste qui regarde sa société. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Et donc, à côté de ces réflexions sur la position de l'artiste dans la société, on a travaillé aussi sur les formulations, sur comment un artiste formule un projet après une résidence. Donc, il travaillait sur le recyclage de matériaux, sur vraiment comment inventer un langage artistique qui pas celui qui représente le réel, mais qui se crée, qui crée des formes, qui s'adresse à la société, mais avec un langage totalement nouveau, sachant que ces artistes avec qui j'ai travaillé beaucoup sortaient des instituts des beaux-arts ou revenaient de leur voyage à l'étranger, ou avaient fait des études. Donc, en fait, ça, c'est vraiment l'aspect un peu pragmatique de l'histoire de l'appartement 22 au tout début. c'est pas le premier espace. Donc il s'agit vraiment de créer un espace. Et cet espace a été créé déjà comme un troisième lieu, disons. Parce que les expéditions Le Bout du Monde, qui consistent en un voyage dans différents villages, à la rencontre des gens, dans la montagne, dans les souks, et tout ça, déjà depuis 2000, était documenté chez moi. Mais ça, c'est le deuxième projet. Le premier projet est en fait un projet d'édition qui s'appelle les éditions Orchamps, qui a été créé en 99 déjà à Bordeaux. Comme j'avais fait mes études à Bordeaux, en fait, j'avais fait un doctorat en communication art et spectacle à Bordeaux. Mais il n'y a jamais eu de coupure entre l'Afrique et l'Europe, en fait, entre Bordeaux et le Rif ou Bordeaux et Rabat. Voilà. Mais du coup, l'appartement de devenait le lieu physique. Il y a eu un lieu éditorial sur des livres, des manifestos, des affiches. C'est un travail visuel, graphique, linguistique. Ensuite, il y a eu les expéditions qui sont à voilà, ce parcours, aller à la rencontre des gens dans leur lieu de vie, réfléchir sur la société et l'artiste qui s'insère là-dedans. Le principe des expéditions Le Bout du Monde. On va un peu dans tous les sens ici, mais c'est important en fait. Quand les artistes allaient dans des lieux de vie, dans des villages, dans la montagne, je leur demandais de ne pas apporter avec eux des documents, pas de livres, pas de biographie, rien qui soit de l'ordre de l'impressionnant ou de se présenter comme ayant fait beaucoup de choses avant et pour justement ne pas orienter la discussion dans un seul sens. En fait. Donc, quand un artiste va voir des gens qui dans des villages où il n'y a pas cette culture d'édition, là, le mode de transmission c'est pas le livre, c'est plutôt la parole, c'est plutôt se présenter, d'où on vient et tout ça. Là, c'était important. Et donc, ça a créé des moments importants d'échange. Et l'artiste, qui vient sans document témoignage, devait faire un effort de traduire tout son parcours ou ses projets de manière orale, en fait, un peu à égalité avec les gens qui étaient rencontrés dans ce contexte. Et après, quand on devait documenter un projet artistique dans le lieu, qui est un lieu de rencontre comme l'appartement 22, à ce moment-là, il s'agit de re-raconter et de faire des affiches et de faire des transcriptions en fait, de ces rencontres-là. Ça, c'est un peu le contexte. Mais si on veut parler aussi de contexte social et politique...
Je vais poser la question.
Ouais. Donc, 2002, on est déjà quelques années après ce moment qu'on appelle la transition politique, la transition vers... un système plutôt inclusif, démocratique, tout ça, vers la fin des années 90, où un certain nombre d'intellectuels et de décideurs et d'activistes sont rentrés au Maroc après des exils très importants. Il y a eu au Maroc, dans les années 60, 70, même 80, enfin, ce qu'on a appelé les années de plomb, c'est des années de répression, ce sont des années de limitation énorme, de droits en fait, simplement de droits citoyens, de droits à l'expression. Et il y a eu bien sûr des projets culturels, mais il y a eu la majorité de projets qui avaient un espace, c'était des projets de propagande, c'était des projets très conventionnels et c'était des projets qui ne faisaient pas réfléchir les gens forcément, à part quelques exceptions et qui avaient beaucoup de mal à apparaître. Et quand on revenait de voyage, ben même moi, quand je reviens de Bordeaux, je fais mes études, quand je rentre au Maroc début des années 90, avec un certain nombre de livres, on m'arrête à la frontière en disant « c'est quoi les livres que vous avez ? Écrivez la liste des livres. » Et s'il y avait un livre un peu problématique ou que les autorités ne voulaient pas, ils ne vous laissaient pas le faire rentrer. Ce qui arrive, c'est que vers la milieu des années 90, vers la fin des années 90, cette histoire de censure n'était pas vraiment valide parce qu'il y a Internet qui commence à arriver et tous les documents, les publications, les idées qui étaient interdites passaient autrement, passaient en digital. Donc voilà, il y avait déjà. Et cette histoire de censure de livres commençait à disparaître. Et en même temps, vu que les idées, enfin, l'État, disons, l'État police, enfin, c'est pas qu'au Maroc, c'est un peu dans beaucoup de pays, mais au Maroc, on le voyait vraiment, ne pouvait pas arrêter la circulation d'idées, ne pouvait pas arrêter les intellectuels d'échanger, de se renforcer par l'extérieur aussi, et même et l'intérieur, et de faire circuler les idées dans le pays. Donc ils ont un peu, disons, lâché du lest, où ils ont été inclusifs, donc ils ont récupéré un peu toutes les énergies et les forces d'opposition et les intégrer dans le pouvoir. D'une part, par un souci de contrôle de la situation, et d'autre part, par aussi, en partie, je pense, un souci d'inclusion et d'ouverture sur le peuple, et redonner, savoir qu'à ce moment-là, Sandé était mort, et qu'on a un nouveau roi qui est jeune, et donc... C'est un peu ce contexte-là. Mais quand même, malgré cette ouverture politique relative, il n'y a pas eu d'espace artistique fort, il n'y a pas eu d'investissement dans le système éducatif, au contraire. Et avec l'Appartement 22, je sentais qu'il fallait créer un espace qui est beaucoup plus orienté vers la recherche, mais aussi ouvert sur les gens. Et donc, l'objectif était... pour moi, comme disons commissaire d'exposition à ce moment-là, éditeur, je fais de la recherche, l'objectif était d'écouter les artistes, d'aller avec eux, mais vraiment jusqu'au bout de leurs rêves et de comprendre leur processus de recherche et leur regard sur la société, mais aussi de les accompagner à créer un espace dans lequel se formulent des idées qui sont à partager de manière très efficace. Alors, c'est une sorte d'écriture. Le premier point, c'est créer un espace. Deuxième point, dans cet espace, comment formuler un projet artistique dans cet espace qui soit cohérent et qui soit aussi compréhensible. Et par la suite de cet espace et de cette formulation de projet, il faut se trouver des outils de communication. Et donc, dans ces outils de communication, ça passe par l'édition, ça passe par des médias. Et voilà, donc il y a un espace physique, un espace éditorial. Après, il y a des plateformes qui se créent. Hein. La radio arrive 5 ans après, donc qui devient un espace online. Alors peut-être par rapport à l'appartement 22, je pense que c'est peut-être bien de clarifier une chose importante, c'est que dès le départ, l'appartement 22 a été créé vraiment pour répondre en fait à ce besoin d'espace, d'abord de rencontre, et c'est un espace de liberté en fait, vraiment. Hein, c'est, l'appartement 22 est situé sur l'avenue Mohamed V, dans un immeuble qui est construit au milieu des années 20, était habité en 1927. On est encore sous protectorat français. Et le bâtiment est magnifique. C'est un art déco juste après. Enfin, toute l'avenue a été vraiment urbanisée avec des bâtiments art déco. L'appartement 22 lui-même, c'est une partie d'un grand appartement. L'espace fait maintenant 30 mètres carrés parce qu'ils ont partagé les appartements, donc nous on a loué une partie. L'espace principal de l'appartement 2 fait 4 mètres sur 4 sur 4, c'est vraiment un cube de 4 mètres cubes, disons, chaque de côté, avec un petit balcon et un espace à côté aussi grand, avec une mezzanine où les artistes peuvent loger. Donc le lieu lui-même, c'est un lieu de résidence d'artistes. C'est un lieu de rencontre et un espace privé qui peut être voilà, vraiment un espace privé pour l'artiste avec un confort minimum possible, vraiment rudimentaire mais bien, et un espace de rencontre. Les gens qui viennent, qui visitent, ce soit un public ou des étudiants, ils viennent dans cet espace, on a décidé que ce soit un espace public. Après, l'artiste qui réside à l'appartement 22, en échange en fait à cet accueil, doit aussi accueillir les visiteurs. Donc c'est un espace qui devient un espace de coopération, un espace coopératif. L'artiste, ça devient un peu comme un artist space, comme en Amérique, ils ont cette notion de... au Canada, c'est des espaces autogérés, en Amérique, c'est des espaces des artistes, en France, ça s'appelle encore... Autrement, c'est des espaces associatifs. Et au Maroc, il y a d'autres traditions, mais plutôt dans le théâtre et dans la littérature et dans les arts du spectacle traditionnel. Et la partie 22 se répond en fait à une réalité en fait, c'est que l'espace est assez petit, il n'y a pas d'équipe professionnelle qui gère l'espace et l'artiste est intégré dans la gestion, parce que l'artiste qui va accueillir les gens dans son atelier. Donc c'est un espace, dans ce sens, c'est un espace coopératif. Moi j'offre un espace, mais je fais aussi le travail curatorial où je parle aux artistes et on se met d'accord sur un principe de collaboration, c'est que l'artiste participe aussi à l'accueil des artistes, des visiteurs. Ensuite, quand les projets se montent, on trouve une forme, une forme de production, une forme d'exposition avec les artistes. On produit des œuvres, un certain nombre d'œuvres, et on va réfléchir à la continuité, à comment continuer. Donc, du coup, j'invite les artistes à discuter d'un moyen de subsistance, de résistance, de continuité, étant dans un lieu où on a 0%, enfin zéro aide, vraiment zéro aide publique, il n'y a aucun argent public qui vient, l'État n'aide pas, au contraire, mais on a quand même des amis qui sont des amateurs d'art, des journalistes, et tout ça, donc on doit créer cette continuité.
Donc, par exemple, qui paye le loyer à ce moment-là?
Alors, c'est moi. Alors, au début, en fait, au départ, c'est tout le loyer, toutes les charges, je les paye personnellement. Avec l'idée que, oui, je vais peut-être créer un système où ça va rapporter de l'argent. Mais au bout de... Très rapidement, en fait, au bout de la deuxième année de l'appartement 22, je ne pouvais plus payer. Parce que c'était pas trompé, mais c'était... je pensais qu'il y avait un intérêt public et des aides, mais en fait, ça n'arrive pas. Et donc, moi, je dépense tout mon argent personnel à payer le loyer, à aider les artistes et à acheter les matériaux et tout ça. Et tout d'un coup, on ne pouvait pas payer. Donc, on fait une annonce dans les journaux en disant, oui, si vous voulez que la culture de l'appartement 2 continue, et il faudrait nous aider. Donc, vraiment dans la presse. Il y a quelques réponses un peu, disons, de soutien dans les journaux, des aides et tout ça. Et j'ai eu un appel de quelqu'un qui est plutôt lié à l'État, mais c'était un moment important, qui me dit, oui, j'ai entendu parler que vous avez des difficultés à payer le loyer, j'aimerais bien reprendre cet appartement pour une résidence, pour la famille, tout ça. Donc du coup, moi, ma réponse, je trouvais que c'était un peu choquant pour moi, donc j'ai répondu en disant, nous, on n'a aucun problème, qui vous a dit ça? Tout va bien, on continue. Donc ça m'a donné beaucoup plus d'énergie pour continuer. Et j'ai invité les artistes à ce moment-là à contribuer, donc à développer ce qu'on appelle la coopérative de l'appartement 22. J'ai invité les artistes à s'occuper de l'appartement même. Et comme je ne pouvais pas payer le loyer et faire des nouveaux projets, c'était 2004, c'est vraiment passé 2 ans après, j'ai invité les artistes à amener des plantes vertes dans l'appartement. On m'a mis des plantes vertes au milieu de l'appartement et j'ai invité les artistes à venir les arroser. Donc pour maintenir la culture vivante, en fait. On a appelé ce programme Culture de plantes. C'était un peu en réponse à cette histoire de... Et à partir de ce moment-là, c'est la culture de plantes à l'appartement 22 est devenu un moment très important, et un avant et un après. Avant, on était complètement indépendant, on pouvait payer nous-mêmes. Et après, l'espace est devenu beaucoup plus fort, disons, politiquement et sur le plan organisationnel. C'est restructuré avec la coopérative. J'invite les artistes à produire des œuvres fortes et on pouvait les vendre parfois. Donc, pas beaucoup, mais à vendre, si on vendait 3 œuvres dans l'année à des collectionneurs, on pouvait payer le loyer. Le loyer coûte 2000 dirhams. À l'époque, 1800 dirhams, c'était 180 euros par mois. C'est pas énorme, mais même sur les jeunes, on n'a pas de... Et donc, ça donnait un peu une énergie différente. Et très vite, en fait, l'année d'après, l'appartement de commencer déjà, en fait, à prendre sens, à devenir un peu plus fort, non pas dans le... disons, l'économie ou l'image de communication. C'est simplement parce qu'il y a un manque, vraiment. Les artistes commençaient à le prendre comme un lieu de référence. Il y a eu pas mal de lieux qui sont créés en même temps au Maroc, dédiés au design, à la mode, des lieux très, très différents. Et donc, à partir de 2005, où j'étais commissaire de la Biennale de Dakar, et d'ailleurs, ça vient un peu par rapport à l'appartement 22, et je continue à faire mes recherches, donc je m'étais lié aussi à des chercheurs à l'école des études en sciences sociales ici, mais aussi en même temps à des gens dans la montagne. Donc tout est devenu mélangé, en fait. L'expression d'un artiste dans un petit village au Maroc ou un séminaire de recherche en art à l'école des études, une salle de réunion à la Biennale de Dakar qui est un lieu de diffusion et tout ça. Donc tout ça se mélangeait un peu. Et donc à partir de 2005, je commençais à consacrer une partie de mon salaire ou de mes revenus dans les projets internationaux à l'appartement 22, parce que j'avais envie que ça continue et ça devenait un lieu d'expérimentation, en fait, où des artistes produisaient des œuvres que je pouvais amener dans des biennales ou c'était tout le début, hein, dans des expositions plutôt internationales. Et des artistes ramenaient, en fait, aider, redonner une partie de leur vente, même si c'était modeste, ça permettait quand même de payer le loyer, disons, et on faisait les affiches en photocopie. Hein. À partir de 2005, moi, j'ai jamais eu besoin, d'ailleurs, de n'importe quel revenu de l'appartement 22. Jusqu'à aujourd'hui, je paye toujours une partie de mes revenus à l'appartement 22 pour continuer. Donc, c'est vraiment resté dans un sens indépendant financièrement.
À ce moment-là, il y a combien d'artistes à peu près qui gravitent
on a fait à peu près 3-4 programmes dans l'année. Donc 2002, il y a eu une série d'expositions qui s'appelait GFGH. La première, c'était GFGH individualité, si on regardait vraiment l'individu. Deuxième, GFGH convention, c'est sur les vêtements et l'existence homme-femme dans la société. GFGH concubinage, sur des notions de partager la vie, vivre ensemble, travailler ensemble. GFGH complicité, donc il y avait toujours jeune femme, jeune homme, et un terme qui était une sorte de critique sociale, parce que l'appartement 22 existe comme un lieu d'expression, mais aussi où on devait pointer ou dénoncer le principe de... Enfin, qu'est-ce qui bloque vraiment pour qu'une société progresse comme au Maroc, le problème de base, mais pour moi, je trouvais à ce moment-là le problème le plus grave qu'il fallait changer immédiatement, c'est l'égalité homme-femme. Et c'est un problème dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Hein. On a des écrivains, des réalisateurs, des marocains qui adressent cette question au Maroc, parce qu'elle est fondamentale. On travaille dessus depuis 2000, depuis les premiers projets à l'appartement 2, c'est ça. 2010, on a fait GFGH Liberté, au pluriel. Liberté d'expression, tout ça, et c'est juste avant, on arrive avec le printemps arabe et tout ça, parce que, et ce problème existe toujours. Après, là, on a fait dernier GFGH, c'était égalité, au pluriel, égalité, parce que les histoires d'égalité au Maroc, au niveau de l'héritage, par exemple, les femmes, c'est 50% des hommes, de femmes également. Ce qui est complètement absurde en 2017. Et cette loi n'a toujours pas changé, et 17 ans après, et je trouve que l'espace de l'art est aussi un espace où on connecte, en fait. On se connecte avec la société, et les artistes parlent de ça. Il y a eu des œuvres magnifiques qui sont nées de ça. Curieusement, GFGH, individualité ou... convention arrive à l'appartement en 2002, et les lois sur la Moudawana, sur les droit de la famille au Maroc change en 2005, donc, trois ans après. On ne va pas dire que l'art, tout existe dans l'art avant, mais il y a quand même, on sait, il y a une sorte de, pas prédiction, mais de prévention, mais il y a une sorte de prise de conscience. Dans cet espace de l'art, il y a une sorte de prise de conscience des thèmes et qui sont adressés dans l'espace de l'art et qui après sont adressés aussi dans l'espace politique, parfois en parallèle, parfois dans l'espace de l'art avant et que l'espace politique les reprend. Donc il y a une sorte de correspondance continue entre l'espace de l'art et la société, l'espace de l'art et le discours politique. Voilà, c'est une sorte d'écriture comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais j'étais intéressé pour savoir des choses sur les centres d'art, qu'est-ce qui se passait, en fait, qui était en Amérique, en Europe, et que j'ai commencé à écouter des programmes radio-artistiques qui étaient intéressants, et j'avais envie, je commençais déjà à documenter, en fait, à l'appartement 22, tous les projets étaient documentés, enregistrés. Dès le début de l'appartement 22, j'avais acheté une caméra, j'avais acheté des enregistreurs. Donc on a enregistré beaucoup de documents de 2002 jusqu'à 2006. Mais malheureusement, on ne pouvait pas les partager vraiment. Donc c'était le moyen qu'on a trouvé pour partager ces archives et ces documents qui étaient enregistrés avec les artistes de toutes ces années-là, était pour moi de créer une radio pour diffuser tout ce matériel. Ça venait de là. Donc j'ai vendu le matériel vidéo que j'avais, une caméra, ça j'ai vendu à quelqu'un qui faisait des séries télé, et j'ai racheté un petit matériel radio, un micro et tout ça. Et en fait, en parlant de la coopérative, un des artistes qui venait à Rabat, c'était Pascal Sumur, qui est un ami de longue date, mais qui est un artiste qui avait travaillé aussi avec Jean-Paul Thibault, avec Younes Hamoun au Maroc, donc un groupe d'artistes, et on avait beaucoup de discussions, on avait beaucoup de matériel, et lui était très doué pour les programmations internet et tout ça. À l'époque c'était un peu dur, et on a créé la radio. J'ai demandé à acheter un domaine, on a acheté un domaine, on a acheté, donc on a créé la radio au tout début avec c'était des choses très basiques comme ça. Et très rapidement, donc ça se crée en 2007. En 2008, j'étais invité à être le co-commissaire de la Biennale de Gwangju en Corée par Okuya Envisor. Et comme j'étais au milieu de la création de la radio, j'ai proposé à ce que la radio soit un studio à Gwangju, en Corée. Donc à côté de l'exposition que je fais dans un des programmes de la Biennale, on a emmené le studio pour faire des interviews et documenter l'exposition que je faisais en Corée, mais aussi tous les projets de la Biennale. Ensuite, chaque occasion de Biennale d'exposition internationale a été l'occasion pour moi de développer la radio, de l'agrandir un peu plus. Et je fais la Biennale de Marrakech en 2009. Et là, j'engage une équipe et on a un studio radio pour toute la durée. Donc moi, j'étais commissaire, je faisais des expositions et j'ai engagé une équipe pour faire que la radio. Tout en jouant le rôle de dire, voilà, c'est un espace de discussion, on va discuter. Au lieu d'aller dans un café, parler avec les artistes, allons prendre un café à la radio et on a l'équipe qui enregistre. Voilà, donc c'est très organique comme ça, en fait. Et du coup, ça s'agrandissait. Et ensuite, il y a eu une biennale à Bruxelles. Ensuite, voilà. Donc, ça commençait à chaque fois que j'avais une proposition de projet artistique dans un des pays, je proposais à ce que la radio accompagne. Parce que ça permet de développer d'élargir un peu les discussions, de toucher des audiences beaucoup plus larges. C'est un moment aussi, il y a beaucoup d'universités, de jeunes doctorants, des boursiers qui étaient intéressés par l'Afrique du Nord, l'Afrique en général, soit qu'ils ne pouvaient pas voyager, soit ils ont du mal en tout cas à trouver des références et des documents. Et la radio, c'était un outil de correspondance et c'était un espace où les gens peuvent trouver des documents, ou trouver en tout cas, écouter des documents qui étaient des entrées, qui étaient des premières rencontres. Et quand on entend un artiste parler de son travail, c'est pas la même chose que c'est juste regarder les images dans les magazines. Voilà.
Et comment s'est fait la rencontre avec... comment le prolongement, en fait, il arrive à Paris avec la fin de tout le monde?
Ça, c'est beaucoup plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... on a tous ces espaces créés... l'appartement 2, c'est un lieu pour l'art. Cet espace s'élargit avec des outils différents, avec l'espace radio, avec les publications. Et à côté de ça, le principe de créer des espaces de rencontre dans des expositions devait aussi interroger le rôle de commissaire. On parle sur le rôle de l'art, sur l'artiste, sur le rôle de commissaire. Et je réfléchissais à des modes de collaboration qui étaient plus efficaces encore. Et j'invitais des commissaires avec qui j'ai eu des discussions, des amis ou des complices, disons, intellectuellement, qui étaient des gens avec qui on pouvait avoir des discussions intéressantes. Je les invitais à co-organiser ou à accompagner des artistes dans des différentes expositions que j'étais invité à organiser. Il y a eu ce principe de coopérative qui était avec les artistes, qui s'agrandit et qui beaucoup plus tard devient la délégation curatoriale, la délégation artistique ou la curatorial delegation. Et parmi ces projets de biennale, j'étais invité à organiser la biennale du Bénin, biennale Bénin en 2012, qui commence un peu avant. Mais j'avais fait aussi un projet à Amman, en Jordanie, qui s'appelait Sentences on the Banks and Other Activities, où il y avait d'autres collaborations avec des gens de la radio et de la télévision indépendante sur la web TV à ce moment-là. Mais au Bénin, en fait, en Afrique de l'Ouest, la délégation curatoriale était composée de plusieurs commissaires de France, de Norvège, d'Afrique même, du Bénin. Et un des commissaires était Olivier Marbeuf. J'avais invité donc au Bénin, qui est venu. On a rencontré beaucoup d'artistes, on avait beaucoup de discussions importantes. Puis on s'était rencontré aussi à Paris, à Montreuil. Et dans nos discussions, on dit oui, mais peut-être qu'il faudrait créer une plateforme, faire développer la radio depuis Montreuil qui s'élargit. Donc c'est le principe de délégation curatoriale et d'avoir un espace de, aussi bien un espace de production mais de formulation partagée. Et Olivier est quand même quelqu'un qui a, disons, cet intérêt par rapport au monde, par rapport aux îles, par rapport à cette navigation, à cette barque, qui était intéressant. On s'est dit, oui, pourquoi pas créer un studio pas loin de Casma, à Montreuil. Entre-temps, donc on commence vraiment à vouloir collaborer. Entre-temps, moi, je pars à Doha pour diriger un musée, donc j'ai un peu moins de temps pour faire ce projet-là. En même temps, le principe de coopérative pouvait nous permettre de développer quelque chose. Donc on a parlé sur un principe de base et Olivier a continué avec son équipe à créer cette radio. Après une vidéo, on l'appelle R22 Tout le monde, c'est parfait. Edouard Glissant, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui m'intéressait beaucoup intellectuellement et c'est la position qu'on a dans le monde. On va se retrouver sur plusieurs continents. Du coup, d'un coup, je me retrouve en Asie, dans un pays arabe, Olivier en Europe, en France, et on s'est rencontrés en Afrique de l'Ouest. Et la radio de l'appartement 2 a déjà eu l'année d'avant un studio à Medellin, en Colombie, donc en Amérique latine. Et encore les années d'avant, c'était en Corée, en Asie du Sud-Est. On se retrouve un peu à couvrir les 5 continents, mais avec un projet très modeste, mais qui fait sens parce qu'on est à l'écoute un peu du monde. Et donc, la Ravane de tout le monde était vraiment, faisait sens, c'était une très bonne idée. Et ce qui s'est passé, qui était très intéressant, et que moi j'aime beaucoup, c'est que la R22 tout le monde, parce qu'il y a une équipe plus jeune, qui a une connaissance d'outils technologiques plus pointus, plus rapides, plus flexibles, et tout ça, donc dépasse un peu l'appartement 2. De l'appartement 2, et ce que je trouvais génial. Et on commençait, nous, l'équipe de l'appartement 2 à Rabat, à donner des programmes, en fait, à participer, comme les autres antennes, à contribuer à cette radio avec des programmes particuliers, et tout en continuant à développer la R22 à Rabat, qui regardait beaucoup plus ce qui se passe au Maroc. Et on a développé une chose parallèle qui était l'audio guide. Donc la radio à l'appartement 2 à Rabat devenait le guide audio des projets de l'appartement 2, avec des interviews, les artistes qui nous font visiter les expositions, et certains audio guides étaient partagés avec l'R22 tout le monde. Et ces derniers temps, en fait, ces deux dernières années, on a eu moins l'équipe radio à Rabat, donc il y a l'équipe de l'R22 tout le monde devait peut-être juste récupérer les sons et les mettre et formuler, donc il y a comme ça des antennes différentes. Voilà, ça vient de là, en fait. Ça vient d'abord d'une... Ça vient de la collaboration R22 et R22 tout le monde vient d'une, d'abord de l'espace de l'art, d'une collaboration curatoriale et d'une discussion sur les œuvres, et qui s'élargit à la création d'espaces radio qui était nécessaire, en fait, pour toucher des audiences différentes.
Junoon-e-Mohabbat ata kiya tune.
Je n'ai pas répondu à la différence à partir de deux matraques, mais c'est une approche, je crois.
Ouais, je pense que là on peut être un peu plus en roue libre, okay. Mais peut-être avant ça, enfin, moi j'ai une... Enfin, en fait, je sors d'une école d'art, Enfin, voilà, dans mon mémoire, en fait, j'essaie de chercher. Enfin, j'arrive, j'ai 22 ans.
Ouais.
Et pour moi, c'était important de savoir de quoi j'héritais, en fait, et de faire ce qui faisait que la manière dont je pensais, la manière dont j'agissais, dont j'étais agi, en fait, n'allait pas de soi et qu'elle avait un héritage, etc. Et de quoi j'hérite, en fait, et, etc. Du coup, j'avais fait un entretien avec Olivier à ce moment-là, puis avec un certain nombre de personnes. En reprenant toujours un peu ce point, enfin, reprenant un point comme ça, un peu plus un marqueur occidental en fait qu'universel, mais qui sont un peu le début des années 90, 89 en peu, précisément, quoi. Où tout doucement, en tout cas le monde de l'art occidental se rend compte qu'il n'y a pas que lui qui fait de l'art contemporain. Qu'on arrive dans un monde de l'art globalisé qui vante comme ça les valeurs du multiculturalisme avec tout ce que ça avec tout ce que ça amène avec quoi. À ce moment là vous avez la vingtaine en début de parcours aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe pour vous en fait au Maroc en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces périodes là quoi? Je sais pas si ça sera super.
Non, c'est important parce qu'en fait il y a une chose très importante, c'est que 1989, c'est la date à laquelle je voyage, je quitte le Maroc et je vais en Europe, je vais en France, exactement 89. Et c'est un moment de passage, donc de passage d'un continent à un autre, d'une nation à une autre. J'avais fait un texte à ce moment-là qui s'appelait L'esthétique des passages. Vraiment, je commençais. En fait, je l'ai fait beaucoup plus tard, mais en réflexion, c'est en 1989. 1989 correspond pour moi à un déplacement de l'Afrique vers l'Europe. Et je découvre l'art contemporain international vu d'Europe, comme il était en Europe. Et en 90, j'arrive à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, et je découvre le musée de Bordeaux, le CAPC, où j'avais commencé à travailler pour payer mes études, à être gardien de musée, par exemple. J'ai de nouveaux amis qui ont des traditions autres, différentes, tout ça, mais on est de la même génération, même si on vient de pays différents. Et ce que j'apprends dans l'histoire de l'art, pour moi, était, parce que j'arrive d'un continent où il y a une autre connaissance, d'autres traditions, d'autres héritages, et je vois tout ce qui se passe comme récit historique de l'histoire de l'art européen, comme si je regardais un écran de cinéma. Je vois tout défile sur l'écran de cinéma et c'est un écran, c'est la connaissance. Dans ce passage, il y a tout ce qui est, tout ce que je viens avec un héritage et je vois toutes ces informations de début, mais je ne suis pas impliqué dedans vraiment, je le vois comme de l'information. Dans ce champ, il y a le hors-champ, en fait, qui est ce qui vient de tous les autres continents qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc c'est. C'est important parce que il s'agissait d'identifier un peu comment on écrit en fait, comment on écrit l'histoire de l'art, disons. Et il y a eu beaucoup d'œuvres que je voyais en fait qui répondaient pas à une situation particulière et que à ce moment-là j'appelais le surcontemporain en fait, qui était une chose un peu en trop. Oui, j'ai la vingtaine, j'arrive en Europe et je découvre, mais un des premiers artistes que je découvre en France, en fait, c'était Fabrice Hibert, avec son élevage de mouches, tout ça. J'ai beaucoup aimé, en fait, découvrir ces formes d'art nouvelles. Juste après, je vois Daniel Buren, je découvre tous ces artistes qui, pour moi, je ne connaissais pas avant. Mais je connaissais d'autres artistes qui étaient sur d'autres continents et je me posais la question, mais à quoi ça sert en fait comment cette pas seulement à quoi ça sert. Ces artistes-là créent des langages nouveaux, mais beaucoup plus tard, j'apprends que Fabrice Hibert, par exemple, a fait ses langages de mouche et que Damien Hirst a fait un an après à Londres. Et donc, en fait, tout se fait pratiquement en même temps. Donc, ce passage pour moi d'Afrique vers l'Europe, c'est un voyage physique qui se fait. En 89, c'est par hasard en fait que je voyage parce que j'allais faire mes études. Et en même temps arrivent les gens parlent un magicien de la Terre, cette exposition, vous l'avez vu. En même temps, on a le mur de Berlin. Donc j'arrive, c'est toute la même année, tous les passages s'ouvrent et tout ça. Et ça m'a un peu surpris en fait de voir à quel point le médiatique, à un moment donné, impose les choses sur la perception de comment on voit le monde. En fait, pour moi, même maintenant, l'exposition Magicien de la Terre n'était pas l'exposition qui a ouvert les yeux sur le monde, pas du tout. Quand vous regardez, même y compris du point de vue européen, quand on voit les artistes dans les années 60, 70, 80, de tous les temps, on s'en est allé ailleurs. Guetti qui va en Afghanistan, ou Kliman qui va en Inde, ou même, je sais pas, même avant, même si on regardait vers. Et qui ont collaboré avec des gens, avec des créateurs. Avec des artisans ou avec des artistes, avec des créateurs en général, qui ont créé des œuvres, on les a apportées, y compris Picasso quand il va garder, quand on amène les masques. Si à un moment donné, l'Europe ne regardait pas ces pays comme productrices de culture d'art, c'est pas parce que l'art n'existait pas, en fait, c'est vraiment sur le regard. Et 89, avec tout ce qui se passe dans l'ouverture des frontières entre les continents et les blocs idéologiques et tout ça, ça contribue d'un effet de communication et de médiation qui fait que, en fait, après, y compris dans le discours de l'art et dans les universités, ça contribue à cette, disons, valorisation d'un événement qui devient un événement qui fabrique une situation alors que c'est un événement médiatique qui ouvre d'informations. Donc Magicien de la Terre devient non pas un moment qui nous fait rendre compte de la connaissance, mais qui est un moment qui médiatiquement fait rentrer ces productions artistiques dans le champ du discours, de la presse artistique et tout ça. Et même des amphithéâtres d'université, tout ça, parce que les gens ne cherchent pas assez, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne dis pas ça pour dire de donner moins de valeur, ou dévaloriser le travail qui a été fait par Magicien de la Terre. Mais au contraire, il y a un travail qui est très important, mais ce n'est pas le début de la prise de conscience qu'il y a un art contemporain ailleurs. Et l'art contemporain, ou l'art du présent, existe dans tous les continents, sur tous les continents, partout là, il y a une vie. Il y a une société, il y a une expression artistique de son temps. Contemporain à son temps, et les artistes vivent dans leur temps, ils expriment, et dans toutes les sociétés.
C'est aussi un moment où on peut dire qu'émerge un peu la figure comme ça du curateur globetrotter ou international, ou, etc. Une figure peut-être à laquelle vous pouvez être associé aujourd'hui avec certaines personnes. Et c'est quoi pour vous Comment on négocie quoi avec cette position, parce que aujourd'hui, parce que c'est quand même une position aussi qui, je sais pas si on peut dire qu'elle domine le monde de l'art, mais en tout cas c'est un jalon important en tout cas. Et est-ce qu'on peut imaginer bien sûr que oui, mais des positions alternatives aussi à celle-ci de comme une forme. En tout cas, c'est quoi pour vous de négocier avec comme ça une sorte de profil, de figure comme ça, mais que chacun aussi va s'approprier en fait un peu différemment, et peut-être aussi que question mal formulée, donc je sais pas si
non, y a pas de
problème. Mais avec on a une pratique comme ça. Il y a peu de personnes aussi, je crois, qui ont encore en fait peut-être leur projet du début qui serait celui de l'appartement 22. Mmh. Et donc ça, c'est un peu une première question. La deuxième aussi, ça revient un peu sur cette question avec Doha et tout ça. Mais comment est-ce que mettre un pied sur une autre barque, ça déséquilibre pas trop la première, surtout que c'est pas des barques qui ont vraiment la même échelle, l'appartement 22. Tout ça, en fait.
Non, mais je comprends tout à fait, en fait, la question. Oui, le souci, c'est le... En fait, c'est toujours une histoire de... Pour moi, c'est toujours un espace de création d'un espace qui est un espace juste par rapport à l'expression, un projet d'artiste. En fait, ce qui est important, c'est pas ce qu'on va faire comme commissaire. Ce qui est important, c'est comment on va révéler cette expression ou mettre en valeur un projet artistique, parce qu'on pense que c'est important. C'est une œuvre qui doit être perçue, qui doit agir, qui doit être comprise, et qui doit agir sur les consciences, et qui doit contribuer à la connaissance, ou qui doit participer d'un projet éducatif, ou que voilà, tout ça. Donc dans ce sens, pour moi, ça a toujours été, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça a toujours été des projets de localité, en fait. Ça a toujours été des projets qui répondent à une situation, que ce soit avec l'appartement 22, ça a été vraiment un lieu qui était créé pour répondre à un besoin particulier de lieu de rencontre et qui interagit avec un réel, qui est un réel qui est fort, qui est lourd, qui voilà, et dont moi j'hérite. Enfin, aujourd'hui, plus de 20 ans après, les premières expéditions, je les ai faites avec les artistes dans le Rif au Maroc. Et on voyait un peu la difficulté, la marginalisation, l'immigration, les gens qui sont jetés de leur pays pour aller en Europe trouver du travail parce qu'ils sont voilà, parce qu'il y a l'économie a fait ça, même si on les a pas tués directement, on les a poussés à s'exiler en Europe, parce que, voilà. Et ce sont des choses pointées par les artistes. J'avais envie d'accompagner ces artistes-là, mais il y a 20 ans, personne n'en parlait de ça. Et aujourd'hui, l'expression d'une révolution dans le Rif. Je mesure mes mots. Les gens se révoltent contre cette marginalisation, contre cette injustice sociale, contre tout ça, et dans tous les domaines, de la musique, du théâtre, simplement d'être citoyen, de vouloir changer. Et ce projet d'expédition Le Bout du Monde répondait à ça, amener les artistes à réfléchir. J'ai invité les artistes à aller travailler avec des communautés, avec des groupes de femmes qui vont chercher, cueillir des herbes et les vendre en petites pochettes pour se répondre à leurs besoins quotidiens, subsister et vivre. Et là, il y a vraiment des projets très importants et qui ont au quotidien contribué à une économie d'un groupe de femmes, même si sur 2 ans, on a pu aider une dizaine de femmes à survivre. Le budget que j'avais pour produire une œuvre d'art n'était pas pour donner de l'argent à un artiste pour aller voyager, mais c'était qu'une partie de ce budget aille vers cette coopérative de femmes et qui en échange d'investir et de réfléchir avec elles comment planter du safran dans le Rif, par exemple, les artistes devaient observer et s'exprimer sur cette situation-là. Donc ça, c'est une situation particulière. À Rabat, c'est une création d'espace parce qu'il y en avait besoin pour ça. Et quand je suis invité, 10 ans beaucoup plus tard, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, pour faire une biennale, j'ai demandé à ce que la 50% du budget de cette biennale soit consacré aux associations d'artistes locales. On a partagé la moitié du budget de la biennale à 11 associations locales, et la moitié du budget était à l'exposition internationale que j'ai organisée. Quand je suis invité à la Biennale de Bruxelles pour faire un projet d'exposition dans un projet qui s'appelle Les Afriques, il y avait un petit budget, je ne sais pas, c'était 12 000 euros, j'ai demandé à ce que 50% de ce budget soit dépensé sur le continent africain, donc dans le Rif, avec des gens pour produire des programmes radio. Il y avait un studio, et c'est toujours online, et l'autre moitié était dépensée à Bruxelles sur l'exposition. Donc c'est toujours des réponses, tout le temps.
Et comment c'est reçu, par exemple, quand il y a des propositions
il y a deux choses. Soit la première réaction des organisateurs, c'est qu'ils disent « Ah oui, non, mais nous, notre biennale, elle est financée par la ville, en Europe, en Asie, voilà, dans tel endroit, on doit faire un événement pour notre public. » Oui, mais pour répondre à ce programme financé par une ville européenne pour faire un événement, le contenu vient d'un autre contexte, d'Afrique, disons, ou d'Asie, ou de n'importe quel endroit, il y a besoin pour cette production, et il faut la produire. Sinon, je viendrai moi-même, je ne fais pas de production, parce que cette production, il faut la faire avec des gens. Et donc, pour moi, il y a une sorte de justice comme ça rendue. C'est pas le Robin Hood, mais c'est une histoire qui est de justesse, en fait, de fairness, en fait, on appelle ça, oui, de juste, d'une action juste, de justice, parce qu'un artiste travaille sur une situation et on peut pas. Je sais pas, c'est comme si on faisait un documentaire sur je ne sais pas quelle communauté dans le monde télé, qu'en fait il y a des gens en guerre, on va filmer un documentaire et qu'on va vendre à des millions à une télé et qu'en fait on filme des gens qui sont en train de mourir. On va filmer une barque en Méditerranée, les gens en train de mourir, ils vont couler, et en fait ce film, comme ça filme la mort, on va le vendre très cher et on va être... C'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est,
ça existe.
Voilà, ça existe et c'est un peu comme ça. Et donc partout où, comme disons, commissaire d'exposition, si je suis invité quelque part, d'abord il faut réfléchir à une situation, pourquoi on est invité, est-ce que ça fait sens. Ensuite, le principe de la délégation artistique ou de la curatorial delegation, c'est d'amener, de travailler avec des gens qui connaissent ce contexte. Donc si je suis invité en Colombie, automatiquement, je pense à Natalia Valencia ou à Juan Gaetan, qui sont des commissaires colombiens qui connaissent le contexte et avec qui j'ai envie de discuter, parce qu'on a les mêmes, disons, approches, pas les mêmes approches, mais on a les mêmes principes de réflexion sur un contexte, et comme ils connaissent beaucoup mieux que moi l'histoire du lieu, l'anthropologie, enfin tous les principes d'échange, l'organisation sociale, on va aller beaucoup plus vite. Donc moi j'amène la plateforme organisationnelle, la radio en Colombie, le lieu d'exposition, et dans les interviews on va se mettre à deux, donc on va aller beaucoup plus vite parce que lui, les questions qu'il va poser, il va tout de suite aller droit vers le but, et que moi je vais être plutôt observateur, donc je vais apprendre. Et si on va au Maroc, je vais c'est moi qui vais poser les questions et mon collègue qui vient de Colombie va apprendre, et on apprend les uns des autres et ça fait avancer. C'est le principe de la délégation qui s'est inspiré directement de la délégation politique, qui va s'approcher à une étude d'un endroit, le chef du groupe devient celui qui est le plus proche des sujets. Et les autres aident. C'est le principe de, voilà, de cette délégation, disons, politique qui s'applique au monde de l'art. Et donc, du coup, on devient plus fort. Demain, on va dans une école d'art à Paris, je vais être votre assistant technique parce que vous allez avoir les questions. Et si on va... dans le Rif ou à Marrakech, je vais poser les questions, vous allez être le technicien. Et donc c'est un peu, c'est pas le principe du communisme, mais c'est le principe coopératif. Et l'artiste produit une œuvre, le curateur va essayer de la mettre en place, voilà. Et si on a quelqu'un qui maîtrise la radio, on va le documenter. S'il y a quelqu'un qui maîtrise l'éditorial, on va le mettre à l'éditorial. Mais en même temps, on apprend les uns des autres et voilà, on recrée une mini société qui peut s'élargir en fonction des contextes, en fait. Et après, sur le... oui, le curateur Globetrotter, c'est un peu cliché, en fait, cette figure qui a été faite comme ça, parce qu'un certain nombre de commissaires ont fait de leur image quelque chose de plus important que leur travail. Donc, si à un moment donné, Aubryst va devenir plutôt celui qui va faire les interviews enregistrées sur le téléphone et qui sont transcrits par quelqu'un et qui sont au kilomètre. Parce que on démissionne d'un travail de réflexion pour donner ce qu'on pense vraiment. On va dire qu'en fait, oui, c'est peut-être, il y a des gens qui ont raison, parce que c'est peut-être qu'il n'y a plus à réfléchir, en fait. Mais moi je pense pas, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et donner des réponses, parce que on est dans des espaces politiques, là d'où je viens il est encore, en fait on doit vraiment résister, agir, dire ce qu'on veut, enfin ce qu'on pense, dénoncer les injustices, dénoncer la corruption, dénoncer, y compris aujourd'hui on se retrouve en Afrique dans des systèmes. Que ce soit les ministères, que ce soit les musées, que ce soit les projets culturels, ils sont gérés par des gens qui n'ont rien à voir. Genre, au Maroc, on est dans je ne sais pas combien de musées qui naissent, mais il n'y en a aucun qui fait vraiment sens, parce qu'ils sont gérés par des gens qui n'ont rien à voir. Soit on amène un artiste gentil, mais qui ne sait pas comment marche un musée, et soit on amène des courtisans qui connaissent bien les chefs de ville ou les rois et des choses comme ça, et on va les mettre à des postes de responsabilité qui vont faire des dîners, inviter les amis et les gens qui peuvent apporter le maximum de fric ou le maximum d'influence, et après mettre dans des postes d'organisation les enfants des autorités les uns des autres qui passent 3 mois de stage en communication dans un pays d'Amérique et qui viennent pour prendre des postes de responsabilité. Et pendant ce temps-là, si vous avez fait un doctorat en radio, on va vous mettre... c'est un peu révoltant, en fait. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui suis curieux, qui veut lire beaucoup, donc quand je suis étudiant, j'arrive, j'achète, c'est les livres. J'aime aller à Beauvour, à la librairie, acheter 30 magazines et tout, parce que je dois rentrer au Maroc, donc je dois tout avoir. Et quand on voit... et l'intérêt, donc, après, de voyager, c'est d'abord d'apprendre, de répondre à des situations de manière le plus... ce qu'on pense le plus juste possible. Après, je pense que les commissaires qui... on a tous des intérêts particuliers, des connaissances particulières. Après, Wanru va être le commissaire chinois, Okui, le commissaire africain, mais c'est pas vraiment parce qu'en fait, ils sont dans des espaces qui sont internationaux, tous, maintenant. Quand on fait la triennale à Paris, au Palais de Tokyo, on n'est pas chacun spécialisé d'un territoire. C'est vraiment un truc international. Et on est commissaire français, américain, marocain. On est dans un espace de l'art partagé. On est déjà dans un espace global, de toute façon. Mais ça ne veut pas dire espace global, ça ne veut pas dire qu'on annule ce qui est local. Parce que quand on est à Paris, on est quand même dans ces situations où le local est très divers, en fait, par essence. La culture française est faite... et le changement, à ce moment-là, la force de l'art qui devient la triennale, c'était plus fort. J'ai un peu divié, là, sur la discussion.
Je ne sais pas, ça fait une heure, peut-être.
On va y aller, peut-être.
Là, il est 11h10.
Il faut que j'y aille dans 5 minutes.
Okay.
Alors, dans la différence, peut-être, sur la différence, à part ton 22, Matav, je n'ai pas oublié, juste au cas où. Voilà, pour moi, c'est dans la continuité de cette histoire curatoriale. Quand je suis invité à diriger le musée d'art moderne et contemporain à Doha, le Matav, vous avez le musée arabe d'art moderne, ça m'intéressait de savoir de quoi il s'agissait vraiment. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres avant d'accepter. Et une des conditions pour accepter ce poste, c'était que je puisse garder l'appartement 22 comme un lieu d'action, et j'en garde la direction artistique parce qu'on a la délégation curatoriale, donc on est plusieurs, et moi je peux me concentrer sur la construction d'une collection, sur le développement d'un musée qui est très jeune. C'est un musée qui a 5 ans, mais dans un contexte où il n'y a pas une grande tradition de musée d'art moderne. Il y a quand même, comme partout, une tradition de création artistique, de toute façon. Et comme l'objet de ce musée est international, Afrique du Nord, Asie, Moyen-Orient, et les diasporas, c'est un peu international déjà. Et ça m'intéressait beaucoup de réfléchir à comment développer une institution qui est très jeune, un peu comme l'appartement d'Asie. Et quand j'arrive à Doha, je crée un espace-projet, un project space. Je propose de créer une radio aussi, mais ce n'est pas encore fait, parce qu'on préfère le YouTube channel, tu vois. Et je crée un séminaire curatorial, donc pour s'intéresser aux pratiques curatoriales. Les éditions se développent dans un certain sens. L'intégration dans les collections de jeunes générations et des manques. C'est tout un projet très particulier, très différent dans l'échelle de celui de l'appartement 22, mais que je traite de la même façon. Si je parlais tout à l'heure de répondre à une situation localement, le Matav, pour moi, c'est un projet et qui est très intéressant parce qu'il s'appelle le Matav, c'est le musée en arabe. Il est né de ce contexte du Qatar. Il est initié et patronné, enfin, je ne sais pas si on dit patronné en France, mais en français, par des gens qui ont l'ambition de progrès, en fait, de transformation, de changement social, de participation à l'éducation de la nation par l'art. Et ça, c'est une philosophie très, très claire et directe. Et le musée fait partie de ça. Et donc, moi, j'accepte de le développer dans ce sens. Et il appartient à 22, c'est complètement une autre échelle. Mais j'ai pu créer des coopération avec les artistes et un certain nombre de commissaires, la continuité de l'appartement 22, tout en gardant les échanges tous les vendredis matin. C'est vendredi, c'est le week-end à Doha, et je passe tous les vendredis à travailler avec Rabat. Et aujourd'hui, avec les outils techniques qu'on a, on peut agir dans ces endroits différents. Et ça n'empêche pas à ce que j'écrive des articles pour un autre endroit, ça n'empêche pas à ce que j'ai des échanges avec des commissaires pour des événements ou des biennales ailleurs. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale sur l'objet du travail, mais il y a une différence dans l'approche organisationnelle, de comment dans un musée, on va avoir des départements très précis avec des fonctions particulières, et dans un lieu coopératif, on va devoir tout faire. Aujourd'hui, on est éditeur, et le lendemain, on est programmeur, et le lendemain, on est producteur, et après, on est assistant d'artiste, ainsi de suite. Voilà.
Ça marche.
Merci.
Merci à vous.